Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. Quand les chapitres sont particulièrement denses, je les traite parfois en deux épisodes. Mais il y a des exceptions. Les chapitres 19 et 20 ont un message commun central. Et ce message est « Tout donner pour Jésus ». C'est pourquoi j'ai décidé de les rassembler en un seul épisode. Si vous connaissez ces deux chapitres, vous me direz « Mais au début du chapitre 19, Jésus parle longuement de mariage et de divorce. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet « Tout donner pour Jésus » ?» Eh bien, je crois justement que c'est de ça qu'il s'agit. Jésus ne dit pas simplement que les hommes, s'ils se marient, doivent rester fidèles l'un à l'autre et ne pas divorcer. Sinon, il s'agirait juste d'une loi supplémentaire. Mais ici, il nous apprend une discipline spirituelle. Voyons cela de plus près. À l'époque où Jésus vivait sur cette terre, les Juifs se disputaient sur la loi du divorce. Je cite dans Deutéronome 24, les versets 1 à 3. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de la maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Bon, mais que voulait dire quelque chose de honteux qui pourrait provoquer un divorce? Là, une partie des pharisiens disait que Moïse entendait par ce terme l'adultère uniquement. Une autre partie des pharisiens était libérale et prétendait que tout ce qui dérangeait le mari pouvait être une cause de divorce. Les pharisiens qui essayaient de tendre un piège à Jésus lui posèrent donc la question suivante. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour une raison quelconque? Le piège en fait ne consistait pas en ce que Jésus pourrait contredire leur interprétation de la loi puisqu'ils n'étaient déjà pas d'accord entre eux. Le piège se trouvait ailleurs. Les pharisiens s'étaient adressés à Jésus lorsque celui-ci s'apprêtait à regagner la Judée, c'est-à-dire qu'il se trouvait encore à l'est du Jourdain, dans une région qui était gouvernée par personne d'autre qu'Hérode Antipas, ce Hérode qui avait fait jeter Jean-Baptiste en prison parce que celui-ci lui avait reproché son mariage illégitime avec Hérodias. Ce qui était arrivé à Jean aurait donc aussi bien pu arriver à Jésus. Les pharisiens voulaient donc savoir si Jésus oserait parler ouvertement malgré le danger qu'il encourait par là. Jésus répond clairement que le divorce n'est pas prévu dans l'ordre divin. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, dit-il. Les exceptions, comme celles nommées auparavant du livre de Deutéronome, ont été données, je cite Jésus, à cause de la dureté de votre cœur. Jésus précise que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. L'ordre divin est donc clair. Mais le réduire pour autant à une interdiction de divorce, sauf pour cause d'adultère, serait probablement en deçà de la réalité. Nous vivons dans un monde déchu, mais nous avons aussi un Dieu plein de grâce. S'il vient en premier dans nos vies, nous voudrons vivre selon son ordre divin. D'ailleurs, dans le judaïsme, le mariage a toujours été considéré comme souhaitable. Le Talmud dit, je cite, j'aime bien cette citation, « Celui qui n'a pas de femme vit sans joie, sans bénédiction et sans bonté. » Mais Jésus mentionne aussi le célibat comme un don que certaines personnes reçoivent de Dieu. Et il nous dit que les deux styles de vie peuvent être à la gloire de Dieu et à la joie des hommes. Également une question de priorité se retrouve dans la prochaine anecdote. Je lis les versets 16 à 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Oui, ici Jésus nous parle du danger de l'abondance. Mais il va beaucoup plus loin. Le jeune homme l'appelle maître et le Christ va lui faire sentir que ce n'est qu'une formule de politesse, parce que s'il le considérait vraiment comme maître, il se soumettrait à sa volonté. Deuxième et bien plus grosse erreur du jeune homme, sa question en soi. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Hein? Voilà l'erreur que Jésus va corriger. Parce que nous ne pouvons rien faire de bon pour être sauvés, puisque nous devons croire en Christ avec confiance et recevoir son salut comme une grâce accordée. Afin de lui faire comprendre ça, Jésus va répondre très exactement à la question, ainsi que le jeune homme le souhaite. Donc, il lui dit la loi, les commandements, et il lui dit qu'il doit observer la loi, et ensuite tout lâcher pour le suivre. Là, c'en est trop. Le jeune homme baisse les bras. La loi, oui. Mais Jésus, Jésus seulement, sans rien d'autre, non. Son cœur appartient à ses richesses et Jésus était en marge. Il ne le suivit pas. Oui, la foi, la confiance en Christ, c'est la condition sine qua non du salut. Jésus au centre de notre vie et tout le reste en arrière-plan. D'ailleurs, celui qui vivra ainsi, Dieu le récompensera dans cette vie et dans la vie à venir, nous promet notre Seigneur. Mais il récompensera chacun de nous selon son bon vouloir à lui, sa justice et sa générosité. Et il nous met en garde. Beaucoup qui pensent avoir gagné monts et merveilles ne recevront que peu. Et beaucoup de chrétiens humbles dans leur tâche feront de grands yeux émerveillés quand ils verront tout ce qu'ils recevront. Et là, Jésus annonce pour la troisième fois sa mort à ses disciples. Je lis les trois versets en question. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Et là, juste après ces terribles paroles, s'avance la mère de Jean et de Jacques et demande à Jésus que ses fils puissent avoir des places d'honneur dans le royaume des cieux. Disons qu'elle a tout simplement rien compris, car je ne puis m'imaginer une réaction plus déplacée que celle-ci. Jésus la rabroue. Ils n'ont toujours pas compris que le chemin du Christ va à travers les douleurs et la mort. Seront-ils prêts, ses disciples, à tout donner pour Jésus ? Oui, bien plus tard ils le seront, sauf un, Judas. Et là, comme Jésus et ses disciples sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Entre-temps, ils avaient donc traversé le Jourdain et se retrouvaient à l'ouest sous l'autorité du Sanhédrin. Je vous lis les versets 30 à 34 du chapitre 20 donc. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. C'est une merveilleuse histoire. Et pourtant, beaucoup de critiques se disputent, prétendant qu'il s'y trouve une contradiction entre les évangiles. En effet, Marc et Luc parlent d'un seul aveugle. Marc précise même que celui-ci s'appelait Bartimée. Je le cite dans son évangile, dans le chapitre 10, verset 46. « Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. » Mais en fait, il n'y a pas de contradiction. Souvent, un évangéliste nous fait découvrir l'ensemble d'un grand tableau comme le fait Matthieu ici. Et un autre évangéliste prête son attention à un détail. Il s'agissait donc bien de deux hommes aveugles. L'on remarquait sans doute surtout l'un des deux, Bartimée, et l'autre était sans doute plus discret. Néanmoins, les deux crièrent à l'aide. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et comme la foule et les disciples essayaient de les faire taire, ils se mirent carrément à hurler leur malheur. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» C'est là que Jésus s'arrêta, les fit venir et leur demanda ce qu'ils voulaient. La question semble obsolète puisque la réponse allait de soi. Il aurait très bien pu les guérir sans leur poser cette question. Mais il voulait que les deux hommes mettent des mots sur leur demande, sur leur prière. « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Et sobrement, Matthieu dit qu'après les avoir guéris, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai traité ces deux chapitres en une seule fois. Le fil conducteur est la première place que Jésus doit occuper dans nos cœurs. Si nous sommes par contre guidés par notre égoïsme, si c'est l'argent qui nous donne un sentiment de sécurité, ou si c'est notre but de pouvoir siéger sur les meilleures places, nous ne passerons jamais le test. Redevenons comme des petits enfants qui font confiance, ou comme ces deux aveugles qui placent tout leur espoir en Christ et qui, une fois guéris, suivent Jésus. Je vous souhaite une semaine bénie et je vous dis au revoir et à bientôt.